Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture. Dans le cadre du projet de rénovation du quartier du Sanitas, qui doit débuter en 2019 et s'étendre sur une dizaine d'années, la ville de Tours envisage de créer, en lieu et place de l'ancien collège Pasteur, une maison des associations qui, je cite, « constituera un lieu de rencontre, d'accompagnement et de soutien pour toutes les associations tourangelles ». En juin 2018, la direction de la cohésion sociale, pôle de la vie associative de la ville de Tours, invitait les dirigeants des associations locales à répondre à une enquête pour connaître leurs besoins et leurs attentes. Dans les conclusions de cette étude, livrée en octobre 2018, il apparaît que le secteur associatif crée de l'emploi, mais que les équilibres sont fragiles, notamment dans un contexte de raréfaction des contrats aidés et de baisse des subventions. La future maison des associations pourrait donc être un lieu de mutualisation des salariés. Deux associations sur trois du panel ont des salariés et près de la moitié des structures employeuses ont un à deux salariés. Les principaux secteurs employeurs sont l'action sociale et caritative ainsi que la culture. Les associations mettent en avant la complexité des démarches administratives, souvent chronophages, de plus en plus techniques et qui demandent des savoir-faire spécifiques. Ces tâches finissent souvent par peser sur les salariés, lorsqu'il y en a, et viennent rogner sur leur temps d'intervention auprès des publics. Ou alors, elles découragent les bonnes volontés, surtout celles qui ont des connaissances numériques limitées. Il semblerait pertinent d'apporter une aide administrative aux structures, notamment sur les demandes de subventions, autorisation d'occupation de la voie publique ou de réservation du matériel. Il est aussi souvent bien difficile de trouver des personnes prêtes à s'engager bénévolement dans les instances administratives des associations, c'est-à-dire en tant que président, trésorier, etc. Si ces fonctions ont longtemps été prestigieuses, les responsabilités semblent décourageantes dans un contexte économique plus difficile et où les associations se trouvent parfois mises en concurrence dans une logique de marché qui semble opposée à la logique associative. Les interviews illustrant cette émission ont été réalisées à l'hôtel de ville de Tours en septembre 2018 à l'occasion des Journées du bénévolat, événement organisé par France Bénévolat Touraine.
Alors moi je m'appelle Estelle.
Et moi c'est Coralie.
Alors Estelle et Coralie, vous venez de nous présenter Watt, le panier curieux. Alors je précise que, attention, Watt c'est V-V-A-T et pas W comme en anglais. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste ce panier curieux ?
Alors en fait l'association c'est Viens voir à Tours, d'où l'anagramme Watt. Le panier curieux c'est pour en fait promouvoir les artistes locaux, donc les artistes tourangeaux, qui sont, selon nous, qui aurait besoin peut-être d'un petit coup de pouce en termes de visibilité. Et le but, donc voilà, c'est de créer des partenariats avec eux pour les mettre en avant et aussi pour faire découvrir, pour pousser les gens à s'intéresser à la culture locale.
C'est ça, et puis surtout, c'est aussi la rendre accessible à tous, parce que forcément, on n'a pas forcément l'argent. Mais parfois, on a aussi cette impression que... c'est pas un truc qui est accessible pour nous. Par exemple, je pense surtout à l'opéra ou certains théâtres, ou même au jazz pour certaines musiques. Donc le but vraiment, c'est ça en fait, dans le panier curieux, en fait, les gens qui ont le panier, qui achètent le panier, ne savent pas sur quoi ils vont tomber. Et du coup, si on avait mis « Ah bah il y a du théâtre » ou « Il y aura du jazz », il y en a qui vont dire « Ah non, j'ai pas envie ». Et parfois on a de bonnes découvertes. À un moment, il y avait... c'est du chant lyrique. Et il y a une personne qui est tombée dessus et qui y est allée, parce que quand tu payes au final, tu veux quand même voir. Et elle était surprise, elle fait « Ah bah tu vois, j'y serais pas allée tout seule » et au final ça m'a plu. Hein. Et donc c'est ça le but de l'asso au final, c'est montrer les artistes et aussi faire découvrir des choses, rendre les gens curieux.
Et alors, en plus, il y a quand même tout un effet de présentation, hein, parce que les tickets, des places de cinéma, de spectacle, peut-être des fois des livres ou des albums, c'est présenté souvent dans un sac. Et donc, même ce sac, il est réfléchi.
C'est ça. En fait, le sac, c'est un tote bag qui est sérigraphié par un artiste local, avec une illustration d'un artiste local, encore une fois. Et l'objectif, c'est vraiment d'intégrer un petit peu plusieurs médiums, tous les médiums possibles dans ce sac, pour ne pas se cantonner à un style d'artiste ou un style en particulier. C'est vraiment, il n'y a aucun critère de sélection sur ce point de vue-là.
Et aussi, on fait les paniers curieux. Et comme on aime bien faire plein de choses et que la culture, c'est vraiment pluriel, on fait aussi des ateliers et on essaye vraiment de diversifier. Le but, c'est vraiment que les gens s'approprient la culture et qu'ils pratiquent la culture. Peut-être la culture, elle existe à travers nous, au final, les artistes aussi, mais sans les consommateurs, la culture, elle n'existe pas.
Alors, pour nous rejoindre, tout simplement, il suffit de nous contacter via nos réseaux. C'est là qu'on est le plus accessible, ou via notre adresse mail, donc watt.asso@gmail.com.
Donc on rappelle que vous faites énormément de choses, c'est-à-dire aller chercher les artistes, démarcher des artistes, découvrir des talents, préparer les paniers. Il y a aussi, je pense, tout l'aspect comptabilité.
C'est ça. Après, justement, c'est cool que t'en parles. On cherche des bénévoles, effectivement, dans tous ces domaines que tu viens de dire. Mais nous, on est partisans du... En fait, on apprend en expérimentant et c'est la pratique qui fait que tu sais faire, quoi. Donc, on contacte les artistes, mais si tu veux rencontrer des artistes mais que tu n'as jamais fait ça, pas de souci, tu peux quand même venir. Justement, c'est même mieux de découvrir ça en étant en connaissant pas. Comme ça, on s'attend à rien, on n'est pas déçu. Et ouais, il y a aussi du paperasse et de la paperasse. Mais bon, si t'aimes pas la paperasse, tu peux quand même venir. Hein. Il y a des gens qui aiment la paperasse, donc ça tombe bien. Donc ouais, on fait contact artiste, contact aussi partenaire, la fac et autres, les artistes locaux. Bah, que ça d'ailleurs. Après, il y a aussi tout ce qui est demande de sub, et bon, c'est un peu technique. Il y a aussi les ateliers. Gérer aussi finalement les bénévoles et ceux qui sont dans les ateliers, donc tout ce qui est animation. Il y a plein de choses dans une asso. Je pense que, à mon avis, tout le monde a dû vous dire, il y a plein de choses, c'est trop divers. Justement, c'est pluriel et ça peut plaire à tout le monde, en fait. Faut juste se lancer. Et justement, l'associatif, quand on commence, on a du mal à s'arrêter. C'est un peu addictif. Alors c'est pour ça que j'étais venue aussi ici découvrir quelles sont les assos de Tours. Finalement, il y en a plein. Il y a plein dans tous les milieux, c'est vraiment, ça foisonne d'associations. Hein. C'est bien parce que c'est ça qui fait vivre la ville au final. Et donc voilà, j'avais déjà connu, mais surtout c'est la première.
Et alors une dernière question, concrètement, ça vous apporte quoi à l'une et à l'autre cet engagement bénévole ?
Alors dans cette association Viens voir à Tours, c'est une association qui est portée par ses bénévoles et qui est très riche en expérience, c'est-à-dire qu'on apprend énormément. Soi-même et on apprend aux autres. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est essentiel. On rencontre beaucoup d'artistes, beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles et de partenaires. Donc ça nous permet de nous créer un réseau et d'apprendre aussi à s'intégrer un petit peu dans ce milieu de la culture qui à Tours est quand même relativement important. C'est un vivier assez riche ici. Et l'avantage, c'est qu'en fait, tous les projets sont... tout est réalisable du moment qu'il y a quelqu'un qui veut le réaliser. Donc dans l'association, les projets sont propres aux membres, en fait, aux bénévoles et aux gens qui décident de les créer, de les mettre en place. C'est aussi pour ça, comme Estelle le disait, que c'est très pluriel, parce qu'en réalité, ça dépend de chacun. Et je pense que c'est un point fort de l'association aussi, de correspondre vraiment aux envies et aux volontés des personnes qui choisissent de s'investir.
Ouais, c'est ça. Ça fait, ça permet d'avoir de l'expérience. Et puis, c'est aussi, il y a aussi le milieu solidaire. Enfin, si on aime la solidarité, l'association, c'est vraiment fait pour ça, quoi. C'est vraiment fait pour toi si t'aimes la solidarité. Après, ouais, l'expérience. En soi, je pense que n'importe qui dira la même chose. L'expérience, ça apporte de l'expérience, ça fait découvrir des choses, des gens aussi. Il y a des rencontres que Coralie, je pense que je l'aurais jamais rencontrée parce qu'on vient pas du même domaine de formation de base. Je l'aurais jamais rencontrée. J'ai rencontré plein de gens super intéressants et dans l'association, la rencontre et l'expérience, c'est vraiment deux mots-clés du milieu associatif.
Antoine de la CIMAD. Bonjour Antoine.
Bonjour. Alors la CIMAD est une association nationale qui va bientôt fêter ses 80 ans et qui s'occupe des étrangers qui migrent. Alors ça avait été créé au moment de la guerre de 39 pour le déplacement des personnes qui étaient coincées entre la ligne Maginot et la ligne Siegfried, qu'il a fallu vider en toute urgence et que ces personnes-là ont été emmenées dans le sud-ouest de la France et qu'elles n'y étaient pas très bienvenues. C'était déjà des étrangers, bien que français. Avec la notion d'étranger n'est pas aussi simple qu'on voudrait bien nous le faire croire. Et ensuite, ça a continué avec les Juifs, avec les réfugiés espagnols, avec et puis maintenant avec les... Il y a eu les Maghrébins, il y a eu maintenant les Afghans, les Syriens, les Irakiens, les Libyens, les Érythréens, et la liste est longue. On a même des fois des Mongols, on a une colonie de Mongols ici à Tours. Enfin bon, voilà, des gens qui ont été chassés de leur pays et qui se retrouvent sur les routes et atterrir où ils peuvent et dans des conditions difficiles. Voilà, les gens pensaient qu'ils trouveraient un bon accueil en France puisqu'on avait cette réputation-là. Malheureusement, même au fin fond de la brousse, les gens savent maintenant que la France n'est plus une terre d'accueil, qu'il y a des endroits où c'est encore beaucoup, enfin, c'est beaucoup moins mal, disons. Et bon, enfin, il y en a quand même qui continuent à arriver du simple fait que... Un certain nombre de gens parlent français et trouvent pratique d'arriver dans un pays où on parle français. Alors à Tours, l'urgence des urgences, c'est l'accueil physique, c'est-à-dire l'hébergement d'urgence. Il y a en ce moment, je n'ai pas les chiffres exacts, mais enfin, il y a plusieurs familles tous les soirs qui se retrouvent à la rue avec des petits-enfants, avec des femmes enceintes... Et ça, c'est un problème récurrent depuis plusieurs années et qu'on retrouve malheureusement de plus en plus. On tourne autour de 50 personnes tous les soirs. C'est assez variable, en plus, suivant les saisons, suivant l'hébergement d'urgence, c'est pas non plus la panacée. Donc quand les gens arrivent à trouver une autre solution, voilà, avec des relations, des gens qui veulent bien les accueillir, parce qu'il y a aussi des réseaux comme Welcome, comme d'autres, où des personnes de bonne volonté essayent d'accueillir des migrants qui arrivent là et pour leur permettre de se poser un petit peu, de reprendre confiance en l'humanité, un peu, si on peut dire. Parce que le voyage est très pénible et à l'arrivée, de se faire recevoir comme ça, c'est assez terrifiant, quoi. Donc de toute façon, nous, on ne fait pas d'hébergement proprement dit, à Tours en tout cas, on n'a pas de structure pour. Il y a d'autres groupes qui le font un petit peu. Mais nous, on a des permanences deux fois par mois pour recevoir les gens. Donc ils viennent nous voir, même la préfecture nous en envoie. Enfin bon, on est assez bien répertoriés dans tous les organismes qui les reçoivent. Et donc, on essaye de les aider dans leur démarche administrative. Donc, soit pour compléter l'action qui est faite par l'État pour l'asile, mais bon, qui demande un peu à être complétée dans certains cas. Et aussi pour les demandes de titre de séjour, classiques ou moins classiques d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas deux cas pareils. Donc, le classique chez nous n'existe pas tellement. Voilà, donc on fait ça et on a aussi une permanence, visite hebdomadaire à la prison où on voit aussi des étrangers qui ont été emprisonnés. Alors on n'emprisonne plus maintenant pour le simple fait de ne pas avoir de papier, donc il y a forcément un délit, mais il faut savoir qu'un étranger avec ou sans papier qui est pris par la police a deux à trois fois plus de chances de se retrouver en prison, même en préventif, qu'un Français, quoi. Voilà. Et en plus de ça, maintenant, alors je vous en parle parce que je le vois malheureusement très souvent, ceux qui n'ont pas des papiers ou qui n'ont plus tout à fait les papiers sont envoyés directement à la sortie de prison en centre de rétention. Voilà, ce qui est aussi une façon de dire qu'on les aime, et y compris pour des jeunes qui étaient arrivés là depuis leur tendre enfance, là, qui ont fait toute leur éducation en France, et auxquels on dit, après un petit épisode en prison, bon, c'est pas pour dire que c'est bien, mais c'est pas non plus pour dire qu'ils valent plus rien. Et voilà, on leur explique que non, il faut repartir dans votre pays, dans lequel, bien souvent, ils ne connaissent plus personne. Parce que quelqu'un qui est là depuis 15 ans, il n'a plus beaucoup de racines dans son pays. Ah, alors pourquoi on a besoin de bénévoles ? Donc, bah, d'une part, à la prison, on a besoin d'un peu de renfort, là, parce qu'il n'y a qu'une seule personne en ce moment, depuis déjà plusieurs années. Donc, il faut renouveler un petit peu. Et puis, bon, pour les permanences, on reçoit en moyenne une quarantaine de personnes, enfin, ou deux cas du moins, parce que des fois, ils viennent à plusieurs. On reçoit une bonne quarantaine de cas deux fois par mois, et là on est très très insuffisamment nombreux, disons, pour simplifier. Hein, parce que alors, ça, c'est une activité qui demande un peu de formation, parce que bon, il faut connaître un peu les rouages des démarches administratives. Donc il y a un peu de droit et un peu de règlement. Enfin, c'est pas très très sorcier, mais ça change souvent. C'est ça qui est, c'est ça qui rend les choses plus intéressantes. Et puis il y a beaucoup, une grosse partie d'écoute aussi, parce que pour voir dans quelles conditions ils peuvent rentrer dans le droit ou pas, il faut adapter son écoute à leur situation, parce que c'est pas à la préfecture et ils sont pas payés pour ça, on peut pas leur en vouloir. Ils vont pas faire l'effort d'aller chercher ce qui pourrait les faire rentrer dans les cases qui sont prévues. Donc c'est à nous, de par notre écoute et de par le dialogue qu'on instaure avec les étrangers qu'on voit, de permettre de trouver le biais par lequel on va les faire rentrer, et on va avoir une chance de les faire accepter comme séjournant officiellement en France. Voilà. Mais de toute façon, il y a des gens formés et on continue à former les nouveaux, et il y a des formations très régulièrement qui sont organisées et localement et régionalement et nationalement. Et donc oui, bien sûr, les gens, on n'est pas livrés tout seul face à l'horrible administration, bien sûr.
C'est un modèle qui va continuer dans le temps, les associations, est-ce que c'est appelé à se développer ou est-ce que les gens vont se dégoûter ?
Ah non, non, je pense que c'est un modèle qui est appelé à se développer, mais c'est compliqué de dire que dans l'état actuel ça fonctionne bien, parce que je pense que tous à peu près ici, on doit dire la même chose, qu'on manque cruellement de bénévoles et de main-d'œuvre. Si cette main-d'œuvre était un petit peu aidée, alors pas forcément comme salarié, mais d'une façon ou d'une autre, qu'on puisse avoir des journées réservées, par exemple dans un travail, qu'on puisse passer une demi-journée par semaine ou par mois dans une association, ça permettrait de donner des forces vives. Parce qu'il ne faut pas non plus se rentrer dans l'institutionnalisme où on dit on va payer les associations, parce que l'argent qu'on donne, il est toujours en échange de quelque chose. Et donc on a ici quelques associations que je ne citerai pas, qui sont largement rétribuées et qui font le sale boulot. Nous à la CIMAD, on essaye de ne pas faire ça, même si dans les centres de rétention, alors c'est pas à Tours mais c'est dans d'autres villes, il y a des salariés CIMAD qui font le suivi social entre guillemets des étrangers dans les centres de rétention, pour les accompagner et essayer de faire respecter leurs droits. Il s'agit juste de ça. Hein, voilà.
Est-ce que les services publics se déchargeraient quand même un peu sur les associations ?
Ah, c'est bien évident, oui, ça existe dans tous les domaines, oui. Et, enfin, dans l'enseignement, dans la pratique artistique, dans le social, largement, oui, très très largement. Ben d'ailleurs, je pense qu'ici, s'il y a autant d'associations qui font dans le social, c'est bien qu'il y a un besoin absolument criant et dramatique, parce qu'il est quand même très partiellement rempli, quoi.
La Barque, c'est un café associatif qui est rue Colbert. C'est un café comme n'importe quel café où nous, ce qu'on veut, c'est un lieu de mixité sur tour, c'est-à-dire où n'importe quelle personne qui se côtoierait pas forcément dans la vie quotidienne se retrouve pour boire un café, faire des jeux. Dans un endroit chaleureux et convivial.
C'est ça. Et du coup, cette mixité, elle se fait à travers plusieurs choses. Alors, à la fois des actions collectives qu'on peut mener sur le lieu, comme des ateliers couture ou des ateliers à l'extérieur, comme le cinéma ou des ateliers autour du basket, et aussi à travers des jeux de société qui sont faits au quotidien avec les salariés et du coup les personnes accueillies sur le lieu.
D'ailleurs, ce lieu, il a son importance. La Barque, c'est situé rue Colbert.
Oui. Oui.
Voilà, donc vous êtes vraiment en centre-ville.
Oui, oui, oui. Ça, et ça, c'est très important pour l'association quand elle a fermé début 2017. C'était très important pour nous de retourner dans ce local-là, puisque ça permet aux personnes en grande précarité qu'on peut accueillir parfois, déjà de venir facilement, sans prendre les transports en commun, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, donc de pouvoir venir à pied. On est aussi entouré de plusieurs autres associations dans le centre-ville. Il y a l'entrée des solidarités, il y a le foyer Albert Thomas pas loin, l'autre foyer pas trop loin non plus. Donc c'était important de rester là et aussi de montrer que les personnes en grande précarité, elles ont leur place dans le centre-ville, même si c'est dans une rue un petit peu plus commerçante et un peu plus...
C'est ça. C'est le café associatif La Barque qui est au cœur de la cité. Et l'idée, c'est là où la mixité sociale trouve tout son sens finalement, parce qu'on accueille tout type de personnes et nous, c'était notre objectif. Enfin, de toute façon, on ne voyait pas la Barque autre part que Colbert, quoi. Parce qu'on a toujours été ancré ici et...
Voilà, donc c'est aussi un lieu, un point de repère important, même dans l'espace, pour vos bénéficiaires. Ils savent où est La Barque et du coup, ça n'aurait pas de sens de les envoyer à le bout de la ville.
C'est ça.
D'autant plus que, je crois que c'est important de le repréciser, vous êtes aussi un bar sans alcool.
Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un café sans alcool. Donc, on n'a que des boissons chaudes et des boissons froides, du bar chocolaté, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un bar sans alcool pour plusieurs choses, pour ce que peut représenter l'alcool pour beaucoup de personnes. Et pour aussi créer des relations, enfin, apprendre aux gens, à n'importe quel citoyen, apprendre à créer des relations sans le produit aussi. C'est aussi important de pouvoir se rencontrer sans l'alcool qui est présent au quotidien dans n'importe quelle vie des concitoyens tourangeaux en fait.
Voilà, ça c'est de dire que peut-être parmi vos usagers, il y en a certains qui peuvent avoir des problèmes avec ce produit-là. Donc de dire de fait sur le lieu il n'y en a pas. Donc ce problème-là en tout cas est évacué. Et c'est après tout, personne n'est à l'abri de consommer trop d'alcool. Donc finalement, c'est bénéfique pour tout le monde. Et je pense que c'est important sûrement à rappeler aussi aux commerçants, aux personnes de la rue, que vous êtes un lieu sans alcool et que du coup... peut-être des accusations qu'on ne peut pas vous porter, puisque vous êtes un lieu sans alcool.
Oui, c'est ça. Après, c'est vrai qu'on a des personnes accueillies qui ont des problématiques autour de ces addictions. Mais effectivement, au sein du lieu, l'alcool n'est pas présent. Et même si des personnes veulent ou essayent de rentrer avec des produits type alcool, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Donc effectivement, on essaie de faire de la communication autour de ça, auprès des commerçants, auprès de tout le monde, que nous, on essaie de régulariser un petit peu tout ça aussi. Les personnes qui viennent alcooliser, de proposer un temps justement où se poser un peu à La Barque, sans s'alcooliser, de proposer un café autre chose que de l'alcool.
Et si on a envie d'être bénévole à La Barque, si on a envie de vous rejoindre, est-ce qu'on doit avoir un profil particulier? Est-ce qu'il faut avoir fait des choses avant? Ou est-ce qu'on peut venir juste parce qu'on a envie d'être bénévole?
Le bénévolat est ouvert à tous, comme le lieu. Donc vraiment, on ne demande pas du tout de formation dans le social, ni de capacités spécifiques. Juste avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, c'est ça le plus important, parce que l'une des premières missions d'un bénévole à La Barque, c'est d'accueillir. Accueillir, c'est dire bonjour quand la personne rentre, savoir se présenter un petit peu et tout simplement écouter la personne, discuter avec elle, mais aussi surtout l'écouter. Ça, c'est très important.
C'est ça. Après, c'est vrai qu'on demande juste en fait, c'est un lieu un peu atypique quand même, qui est à découvrir. Du coup, voilà, c'est des personnes qui doivent venir voir le lieu, voir s'ils se sentent bien déjà, s'ils ont envie de faire des choses, s'ils ont envie de participer justement à toutes ces petites équipes. Voilà, l'idée c'est de venir découvrir dans un premier temps et voir après ce qu'on peut faire ensemble. S'il a envie aussi de créer des choses là-bas. Voilà, mais effectivement, il n'y a rien d'avoir spécifique. Effectivement, comme disait Amandine, savoir accueillir quelqu'un, je pense que voilà, ça va des relations humaines, sociales que nous tous pouvons avoir. Du coup, ça requiert pas plus de. Enfin, on n'en demande pas plus en tout cas pour les bénévoles.
Non.
Vous êtes présidente de France Bénévolat.
On peut s'engager pour une demi-journée par semaine, voire même par quinzaine. C'est pas l'engagement bénévole, c'est pas forcément chronophage. Mais voilà, quand on s'engage, il faut s'engager. C'est-à-dire il faut respecter sa parole et bien sûr être présent quand on dit qu'on le sera. Mais c'est le seul impératif. Voilà, on se sent ou on se sent pas bénévole, mais... Bon, il y a des gens quand même pour qui ça démarre uniquement à la retraite. Mais je voulais dire aussi, et je le répète tout le temps, qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans le bénévolat de façon quelquefois plus ponctuelle, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis il y a aussi des gens actifs ou des gens en recherche d'emploi. Enfin voilà, ça ne concerne pas que les retraités.
Sachant qu'en plus, France Bénévolat, il me semble que vous avez inventé un livret bénévole pour comptabiliser les compétences qu'on peut acquérir en tant que bénévole.
Oui, alors ça s'appelle le passeport bénévole. C'est France Bénévolat au niveau national qui l'a imprimé. Tout bénévole peut l'avoir, le remplir, le faire remplir par l'association dans laquelle il se trouve et ensuite l'inclure dans son CV. Et ça donne aux employeurs une image un peu... Enfin, une meilleure image de la personne qui est en demande d'emploi. Voilà. Et donc, on voudrait bien faire mieux connaître cet outil de façon à ce que beaucoup de gens qui font du bénévolat pendant une recherche d'emploi puissent l'inclure dans leur CV. Et ça, c'est validé aussi pour, comment on appelle ça, les VAE.
Oui, les validations des acquis de l'expérience.
Voilà, exactement. Oui.
Et je crois savoir aussi que plus on fait de bénévolat aussi pour avoir des heures de formation aussi dans le cadre de son travail. Alors je ne sais plus, c'est les CIF ou je ne sais plus, les termes aussi.
Il y a des points qui peuvent être acquis de cette façon, mais je ne suis pas non plus très experte là-dessus. Mais c'est vrai que, un peu à la mode anglo-saxonne, le bénévolat commence à être valorisé dans le monde de la vie active.
Sachant qu'il me semble aussi que depuis cette année, au sein de l'université, les étudiants peuvent aussi valoriser leur engagement bénévole.
Oui, ben c'est ce que j'ai appris aussi récemment. Oui. Donc voilà, cet outil est valable aussi pour les étudiants et pas seulement pour les gens en recherche d'emploi. Il y a de l'énergie à Tours et il y a beaucoup de nouvelles initiatives.
Les interviews illustrant cette émission ont été réalisées à l'hôtel de ville de Tours en septembre 2018 à l'occasion des journées du bénévolat, événement organisé par France Bénévolat Touraine. Le Daü vous dit à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture, il y en a pour tous les goûts. Ooh.